France Culture.
Et le journal donc attendu de Mathieu Laurent. Bonsoir Mathieu.
Bonsoir Quentin, bonsoir à toutes et tous. Justement, au sommaire de ce journal, au Maroc, la colère des habitants de Safi, endeuillés par les inondations, ville à l'abandon, reportage dans un instant. Nous nous rendrons à Bruxelles, à la veille d'un sommet de chefs d'État et de gouvernement qui pourrait bien prendre acte d'une minorité de blocage de la signature du traité du Mercosur prévu samedi, bilan d'étape Fabien Cazeau. La crise de la dermatose en France fait florès dans la sphère complotiste anti-vax ou proche du mouvement Reconquête qui monopolise le débat sur X. La campagne pour les municipales avec le regard de la politiste Valérie Martin sur l'accord PS écologiste en vue des élections à Paris, une émanation de la loi dite PLM. Plusieurs organisations professionnelles de la filière cinéma appellent au respect la liberté de création et de programmation. Ces deux dernières semaines, deux films ont été particulièrement ciblé par des élus de tous bords. En fin d'édition, nous ferons le point sur l'audition en cours de la présidente de Radio France, Sybille Veil, devant la commission d'enquête sur la neutralité, le fonctionnement et le financement de l'audiovisuel public. Le Maroc fait face à des conditions climatiques extrêmes et les autorités viennent tout juste d'annoncer le déploiement d'une aide d'urgence nationale. Annonce qui en laisse plus d'un à tout le moins perplexe dans la ville portuaire de Safi, où des inondations ont coûté la ville il y a 3 jours à 37 personnes. À la tristesse et au deuil s'ajoute désormais une colère sourde. De nombreux habitants dénoncent la marginalisation dont souffre la cité, l'accroissement des inégalités sociales qui fragilisent les classes populaires et les surexposent à ces intempéries exceptionnelles. Face à la catastrophe, partis politiques, associations et syndicats ont engagé la création d'une commission de solidarité. C'est un reportage à Safi, au Maroc, de Mathias Reynal de RFI.
Malgré les coups de balai, l'eau et la boue ressurgissent sans arrêt. Pour Reda, un trentenaire de la Médina, tout ça aurait dû être évité.
L'entretien du réseau d'assainissement, il n'y en a pas chez nous. On ne prépare pas l'arrivée de l'hiver et des pluies.
Pourtant, le risque d'inondation est bien connu à Safi. L'histoire de la ville a été marquée par plusieurs crues meurtrières de la rivière Chaaba, rappelle le jeune Reda. La vieille ville de Safi est construite au niveau de l'embouchure de ce petit cours d'eau, à sec la majorité du temps.
Les gens qui vivent ici, c'est la classe populaire. Le politicien, il néglige cette couche sociale, il ne fait rien pour ses droits, il ne la représente pas, et voilà ce que ça donne.
À Safi, des partis politiques, associations et syndicats ont annoncé hier la création d'une commission de solidarité. Ces derniers estiment que le drame est le résultat direct d'années d'abandon et de mauvaise gestion des infrastructures. Une version contredite par Mohamed Meziani, le directeur provincial de la société régionale multiservice, chargé de l'assainissement.
C'était des pluies exceptionnelles, quand on est dans la ville de Safi. C'était des pluies exceptionnelles, jamais vues, dimanche après-midi. En fait, ce n'est pas le réseau qui a posé le problème. Le réseau est curé, il n'y a eu aucun problème tout au long de l'année.
La commission de solidarité annonce un sit-in ce dimanche pour, je cite, « exprimer la colère collective des habitants ».
Mathias Reynal de RFI à Safi au Maroc. La présidente du Mexique, Claudia Sheinbaum, en a appelé aux Nations Unies pour éviter, je cite, une effusion de sang au Venezuela après l'annonce par Donald Trump d'un blocus américain contre les pétroliers sous sanctions. Le Venezuela assure que ses exportations de pétrole brut se poursuivent normalement en dépit de ce blocus. Blocus auquel il faut ajouter des opérations militaires qui ont officiellement trait à la lutte contre le narcotrafic, bombardement de navires et élimination de leurs équipages qui, aux États-Unis, vont jusqu'à diviser dans les rangs du Parti républicain. 3 frappes aériennes russes sur la ville et la région de Zaporijjia dans le sud de l'Ukraine ont fait au moins 26 blessés. Le Kremlin revendique l'annexion de cette région. L'armée russe occupe d'ailleurs depuis 2022 la centrale nucléaire de Zaporijjia, la plus grande d'Europe. L'Union européenne, qui réfléchit toujours au gel des avoirs russes, eh bien, à la veille d'un sommet de chefs d'État et de gouvernement, la première ministre italienne, Giorgia Meloni, évoque, je cite, des risques quant à ses avoirs de la Banque centrale russe gelée en Europe et demande des éclaircissements. Tout autre approche que celle du chancelier allemand, Friedrich Merz, qui appelle à utiliser ses avoirs russes gelés pour le financement de l'Ukraine en guerre. Il faut, ajoute-t-il au Bundestag, intensifier la pression sur Poutine pour l'amener à négocier sérieusement. Fin de citation. Eh bien, restons à Bruxelles, où un tout autre enjeu de ce sommet qui ne fait pas l'unanimité. Je veux parler de la signature du traité du Mercosur que la Commission européenne promeut. Deux pays n'y voient que non-sens et renoncement à la défense des agriculteurs, l'Italie et la France. Et voilà que Rome rallie Paris sur cette ligne. Bonsoir Fabien Cazot.
Bonsoir.
Fabien Cazot, correspondant de Radio France à Bruxelles. Fabien, d'abord, peut-on parler d'une véritable convergence de vues entre Paris et Rome ?
Absolument. Paris et Rome se retrouvent ce soir sur une même ligne. Non, pas pour l'instant, au sujet de la signature de cet accord commercial avec le Mercosur. La position italienne, enfin explicitée, ne ferme pas la porte à une adoption ultérieure du traité. Mais Rome, comme Paris, estime que l'accord doit être encore travaillé, notamment sur la question des clauses miroirs et des garanties de concurrence loyale avec les agriculteurs du Mercosur. Un travail technique qui ne pourra pas se régler en deux jours entre dirigeants européens dans le cadre du sommet de demain et d'après-demain. Les clauses de sauvegarde votées hier par le Parlement européen, examinées en urgence ce soir par les représentants des États membres, ne devraient donc pas suffire, pas plus que les garanties supplémentaires apportées ces dernières semaines par la Commission, notamment son engagement à renforcer les contrôles directement auprès des producteurs du Mercosur ainsi qu'aux frontières de l'Union.
Doit-on s'attendre alors à une minorité de blocage ?
Bien oui, le compte y est, puisque l'Italie vient de rejoindre la France, mais aussi la Pologne et la Hongrie. Dans ce camp du non, il faut au moins 4 pays qui représentent 35% de la population de l'Union européenne. Nous y sommes. Cela signifie qu'ils peuvent bloquer à eux seuls la signature de l'accord commercial. Mais ni la France ni l'Italie ne ferment à ce stade la porte à une signature ultérieure. Cela veut donc dire qu'ils souhaitent que le travail préparatoire continue, au risque de fâcher l'Allemagne et l'Espagne, figure de proue au contraire des partisans de l'accord de libre-échange. L'Allemagne au nom de ses exportations et l'Espagne au nom de ses relations anciennes et privilégiées avec l'Amérique latine. Eux militent pour une ratification rapide de l'accord lors du prochain sommet des pays du Mercosur qui se tiendra dans 3 jours au Brésil.
Merci à vous Fabien Cazot à Bruxelles. Mercosur, DNC, même combat, lit-on sur les banderoles et les amas de bottes de foin des agriculteurs qui se mobilisent contre les mesures sanitaires liées à la dermatose nodulaire contagieuse. En ligne, leur colère est largement récupérée à des fins politiques, notamment sur le réseau social X, ex-Twitter. AgorAtlas, une entreprise spécialisée dans l'analyse de données en ligne, a examiné près de 500 000 tweets publiés depuis dimanche. Les résultats montrent que les sphères complotistes, anti-vax ou proches du mouvement Reconquête monopolisent le débat sur X sans réel soutien des agriculteurs. Milena Elig.
Des tweets avec le hashtag « agriculteurs en colère » aux côtés de hashtag « Macron en prison ». Il y en a des milliers portés par des comptes d'extrême droite proches de milieux complotistes, anti-vax, anti-Union européenne, des soutiens de Florian Philippot ou Philippe Devilliers et surtout une sphère zémouriste extrêmement mobilisée avec des actions coordonnées, affirme AgorAtlas, qui cite pour exemple un compte avec plus de 500 messages identiques publiés depuis dimanche. Il renvoie vers une pétition pour la destitution d'Emmanuel Macron. Une récupération politique qui pourrait ne pas être un problème si ces comptes recevaient effectivement le soutien des principaux concernés. Or, les agriculteurs restent largement à l'écart de ces contenus. Ils interagissent principalement entre eux et avec les médias et responsables politiques traditionnels. La question n'est donc pas vraiment de savoir qui soutient qui, mais qui parle au nom des agriculteurs qui voient leur contenu englouti par cette avalanche de tweets militants. Enfin, autre enseignement important de cette étude, aucune tentative d'ingérence étrangère de grande ampleur n'a été détectée.
Il est 18h09, vous écoutez le journal de France Culture. Venons-en à la campagne pour les élections municipales en France, avec un accord entre les partis écologistes et socialistes rendu public ce matin. Accord, il faut le souligner, historique, qui conduit à une union d'une bonne partie de la gauche face aux candidatures de droite et d'extrême droite. Et tout laisse à penser qu'il sera validé en soirée par les instances des partis. Une alliance donc, dès le premier tour, le 15 mars prochain, qu'il faut considérer dans le cadre de la loi dite PLM, dont les règles d'organisation a été réformée l'année dernière. Jusqu'à présent, les Parisiens votaient pour une liste de candidats par secteur. Ils voteront désormais 2 fois le même jour, un scrutin direct pour choisir leur maire et un autre pour choisir leur conseiller d'arrondissement. Un changement qui n'est pas sans conséquence. Il force aux alliances les plus larges possibles dès le premier tour. Adrien Toffolet a sollicité Valérie Martin, politiste et cofondatrice du think tank Spirale Institute.
La loi PLM était une loi de territoire, si vous voulez. On pouvait finalement être peut-être faible parfois en voix populaire, mais gagner quand même la mairie parce que tel et tel arrondissement qui fournissait beaucoup de conseillers pouvait vous favoriser. Là, il faut vraiment gagner le vote populaire, c'est-à-dire il faut avoir le plus de voix possible. Et dès le premier tour, évidemment, c'est mieux parce qu'on part en force pour le deuxième. Donc c'est ça finalement, on a une logique qui n'est plus du tout territoriale, on ne peut plus capitaliser sur la force territoriale. Là, il faut absolument gagner, travailler le leadership et dès le premier tour si possible. Après, peut-être que les gauches manquent un petit peu de leadership par rapport à la personnalité extrêmement connue de Rachida Dati et qui marque les esprits, qui impacte au niveau de l'opinion publique. Donc c'est très important aussi de ne pas aller face à finalement à cette figure médiatique politique qu'est Rachida Dati, y aller en ordre dispersé. Finalement, ce scrutin est moins tactique. Typiquement, la gauche mettait beaucoup d'énergie dans le nord-est de Paris. Là, il va falloir qu'ils mettent de l'énergie partout. Et donc, ils sont aussi plus, si vous voulez, en prise au vent du national. Quid des gauches au national? C'est ça, finalement, aussi, que ça va raconter cet arrêt de la loi PLM sur Paris, Lyon, Marseille.
Valérie Martin, politiste avec Adrien Toffolet. Les candidats à Parcoursup peuvent désormais consulter les formations proposées avant de pouvoir formuler leurs vœux. À partir du 19 janvier, si le nombre de formations reste stable, il reste abondant. 25 000 formations proposées, dont un quart sont issues du privé. Cette année, la grande nouveauté, c'est la licence professorale des écoles. Parcoursup est toujours une source de stress. On le sait à cet égard. Une étude de l'Institut des politiques publiques de Paris nous apprend que les élèves de terminale sont de plus en plus nombreux à faire leur choix en s'appuyant sur les formations qu'ont choisies les anciens élèves de leur établissement. Chez des candidats issus de milieux modestes, Hakim Kasmi, les choix du père pèsent lourd.
Un phénomène qui s'explique en grande partie, selon l'étude, par l'offre abondante sur Parcoursup avec plus de 25 000 formations. Et ce sont surtout les lycéens, issus des quartiers populaires, qui sont les plus nombreux à s'appuyer sur les choix de leurs prédécesseurs, particulièrement dans les filières sélectives, comme nous l'explique Gustave Kennedy, co-auteur de l'étude et professeur d'économie à l'université de Cergy.
À niveau scolaire égal, si on prend par exemple les bacheliers qui sont dans les 10% les plus performants, donc qui ont sont dans les 10% en termes de notes au bac, et qu'on regarde leur probabilité de candidater dans une formation particulièrement sélective, selon leur origine sociale, il y a un écart très important dans la probabilité qu'ils candidatent à au moins une formation très sélective. Donc les étudiants de milieux défavorisés sont à peu près la moitié des étudiants défavorisés qui sont parmi les meilleurs bacheliers candidatent dans une de ces formations très sélectives, alors qu'ils sont trois quarts pour les meilleurs bacheliers qui viennent de milieux très favorisés.
Une tendance qui devrait également à terme permettre de mieux lutter contre le phénomène d'autocensure, espère Jérôme Teillard, chef du projet Parcoursup au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche.
Plus on encourage à anticiper les choses dès le lycée, plus on encourage à consulter en donnant des informations fiables et en permettant de les confronter avec des étudiants et des enseignants du supérieur, plus on crée un climat de confiance. Donc voilà, moi je crois que c'est toujours important d'apporter de la donnée, parce que la donnée, elle permet d'objectiver les choses et aussi de rassurer.
Enfin, rappelons que chaque année, ce sont au moins 4000 élèves qui sortent du système scolaire sans diplôme.
Hakim Kasmi, liberté de choix. Eh bien, plusieurs organisations professionnelles de la filière cinéma appellent au respect de la liberté de création et de programmation, dont l'ACID, Association du cinéma indépendant pour sa diffusion, la SRF, Société des réalisateurs de films, la Guilde des scénaristes. Ces dernières semaines, deux films ont particulièrement été ciblés par des élus de tous bords. Sacré-Cœur de Sabrina et Steven Gunnell et Put Your Soul on Your Hand and Walk de Sépide Farsi. Tous deux ont été déprogrammés de différentes salles. Sacré-Cœur a également été imposé dans le cinéma municipal de Clichy-la-Garenne, entraînant la démission de son directeur. Laure Vermeche est la coprésidente de l'ACID. Elle dénonce, vous allez l'entendre, un principe bafoué par ceux qui sont censés en être les garants, les élus.
Ce sont des enfreintes à la liberté de création, qui a pour pendant la liberté de programmation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la liberté de création, c'est l'affaire de toutes et tous, Ça concerne les cinéastes, bien sûr, les créateurs qui souhaitent que leurs films puissent être vus, qui ont la liberté de commenter, de faire sentir un certain nombre de choses, de commenter sur la vie démocratique actuelle ou la vie religieuse en l'occurrence, mais c'est aussi un droit pour les publics à avoir accès à ces œuvres. Et ce qui fait le lien, évidemment, c'est la liberté de programmation entre les deux, qui ne saurait être la responsabilité des élus. La liberté de programmation, elle obéit à des critères, elle obéit à des choix, elle obéit à des choix qui sont liés à des connaissances de leur public, des envies, des choix artistiques, esthétiques. Quoi qu'il en soit, il est absolument indispensable qu'on protège dans ce pays la liberté de programmation et il est indispensable de rappeler aux élus que c'est un pilier de la démocratie. C'est justement parce qu'il y a une division politique, c'est parce qu'il y a une pression politique aussi forte qu'il faut absolument rappeler les principes et en revenir à ce qui est indispensable, à les principes fondamentaux de pluralité et de tolérance. C'est le seul moyen pour protéger à la fois la liberté d'expression, éviter que on dérobe à la communauté des citoyennes l'un de ses biens les plus précieux et qui est la diffusion des œuvres.
Des propos recueillis par Fiona Mogadam, toujours aux prises avec de lourdes difficultés. Le Louvre qui a partiellement rouvert ses portes ce matin malgré la reconduction à l'unanimité de la grève débutée lundi. Le musée est dans la tourmente depuis le spectaculaire cambriolage du 19 octobre dernier. Les agents se disent insatisfaits des propositions avancées hier par le ministère de la Culture, la CGT, la CFDT et Sud. On rencontrait la présidente du musée, Laurence Descartes, à la mi-journée. Au même moment, Louise Forbin, les visiteurs ont pu commencer à entrer dans le bâtiment.
Devant le Louvre, les visiteurs font la queue dans le calme. Certains ne savaient pas en arrivant que le musée n'était pas complètement ouvert. Mais pour Andy, 21 ans, impossible de reporter sa visite.
Comme on est là que pour 3 jours, on n'a pas d'autre possibilité. Après, c'est leur droit de gréver.
Des conditions de visite dégradées, mais le prix du billet, lui, reste le même. Thomas, 46 ans, est venu voir l'exposition sur le peintre David, qui fait partie des espaces ouverts.
Et puis s'ils s'amusent là à nous couper l'exposition David en deux, on demandera une partie de remboursement.
Cette ouverture du musée, malgré la grève, s'est faite sans fracas. Gary Guillot est délégué CGT au Louvre.
On n'est pas là, à la base, pour empêcher le public d'accéder à la culture. Notre manifestation et nos revendications sont à la base pour dénoncer cette fermeture de salles incompréhensibles par manque de personnel. Là, on a entre 40 et 50% de salles fermées quasiment tous les jours. Donc, on n'était pas là pour bloquer le Louvre.
Les syndicats réclament notamment des créations de postes, une meilleure rémunération, mais aussi des améliorations en matière de sûreté. Cette grève est suivie par tous les corps de métier au Louvre. C'est une première, explique Valérie Beau, déléguée CFDT.
Pour que ce mouvement se taise, on nous a proposé une prime de 350 euros à la fin de l'année si on levait notre préavis. Le personnel ne l'a pas accepté. Ce n'est pas nous, organisations syndicales, qui avons décidé de dire on va motiver les troupes pour faire grève. Non, c'est que les agents viennent nous chercher, syndiqués, pas syndiqués. Donc en fait, c'est vraiment une lame de fond qui vient des agents.
Une nouvelle assemblée générale doit se tenir demain matin pour décider de la suite du mouvement.
Ni crise, ni mouvement social, mais un temps compliqué que croise l'audiovisuel public. En effet, une commission d'enquête sur la neutralité, le fonctionnement et son financement s'est ouverte fin novembre à l'initiative de l'UDR, parti d'Éric Ciotti, allié du Rassemblement National. Et depuis le début de l'après-midi, c'est la présidente de Radio France, Sybille Veil, qui est auditionnée. Bonsoir Fawzi Tritta.
Bonsoir.
Fawzi, 3 chapitres abordés jusqu'à maintenant. La perception de la formation, le pluralisme et l'affaire Le Grand Cohen.
Oui, dans son propos liminaire, Sybille Veil, la PDG de Radio France, a déconstruit plusieurs idées, dont celle-ci.
On entend parfois que Radio France ne parlerait pas à tout le monde. 3 Français sur 4 consultent tous les mois nos contenus. Alors si c'est un club, c'est un club très ouvert.
Concernant les attaques sur les soupçons de manque de pluralisme, Sybille Veil a annoncé la création d'un baromètre.
Aux radios, ce sont 5600 invités chaque mois et autant d'avis différents. Ce sont des dizaines et des dizaines de thèmes différents évoqués tous les jours. On ne privilégie aucun thème, on n'en exclut aucun. Et ce pluralisme, nous souhaitons que chacun puisse le voir en toute transparence. Et on l'a fait en développant un outil d'intelligence artificielle dont nous allons publier les résultats. Ce sera dès demain sur le site internet de Radio France et chacun pourra accéder à notre baromètre du pluralisme.
La PDG qui a aussi été questionnée à plusieurs reprises sur la vidéo montrant le journaliste Thomas Legrand, en retrait depuis, et Patrick Cohen, en discussion avec deux cadres du Parti Socialiste dans un restaurant.
On a donné cette vidéo des proportions qui étaient absolument démesurées. On a essayé de lui faire dire des choses qui, confrontées à la réalité des faits, ne tiennent pas.
Concernant Patrick Cohen, la PDG rappelle qu'il est resté silencieux dans cette vidéo et que l'ensemble de ses chroniques depuis janvier a été analysé. Rien n'a été décelé concernant une quelconque démarche nocive dans les municipales à Paris et envers Rachida Dati, selon la PDG. Demain, les auditions se poursuivent. La directrice de France Inter, Adèle Vendrette, Patrick Cohen et Thomas Legrand vont être questionnés.
Merci à vous, Faouzi Trita. Quelques mots de météo pour refermer ce journal. En début de matinée, des brouillards encombrent le Val-de-Saône et le plateau Lorrain. Temps faiblement pluvieux près de la Manche et en Bretagne, pluie plus marquée dans le Nord-Ouest. Ce journal a été préparé avec Nina Malray et Brice Garcia. À la technique, Noé Chaban.